France Musique.
Notre invitée est altiste. Elle est née en 1988 à Toulouse, au sein d'une famille de musiciens. Son père est chanteur lyrique, sa mère pianiste, son frère Guillaume violoniste. Mais c'est sur l'alto qu'elle jette son dévolu alors qu'elle n'a que 3 ans. Des études au Conservatoire de Paris dans la classe de Jean Sulem, au rang de l'orchestre des jeunes Gustave Mahler. Elle rejoint ensuite l'Académie Ozawa en Suisse et séjourne à Berlin auprès de Tabea Zimmermann et du quatuor Artemis. Elle fonde ensuite avec son frère Guillaume son propre quatuor, qui porte le doux nom de Cavatine et dont elle va nous parler. La musique en fratrie, oui, mais pas que. Elle joue aussi avec Franck Bralet, Sarah et Déborah Nemtanou, David Grimal ou Renaud Capuçon. Et c'est d'ailleurs avec ce dernier et accompagné d'autres musiciens qu'elle a enregistré les sextuors de Johannes Brahms, un disque qui vient de paraître sous le label Erato et dont elle vient nous parler ce matin. Entre autres, bonjour Marie Chilem.
Bonjour.
Vous allez bien?
Oui, très bien, merci.
Vous revenez tout juste du Festival d'Aix-en-Provence, c'était hier, Festival de Pâques?
C'est ça, je reviens hier.
Ça s'est bien passé?
Très très bien, très très bien. C'était des moments forts, c'était un concert frère et sœur dans la joie et la bonne humeur, c'était vraiment super.
Et on va en parler, et puis c'est dans le cadre de ce festival que vous avez enregistré le programme du disque qu'on va découvrir ensemble ce matin d'ici 9h. Avant cela, je vous propose de fêter un anniversaire, l'anniversaire du chef d'orchestre britannique John Elliott Gardiner, que j'imagine vous connaissez, né le 20 avril 1943 à Springhead en Angleterre. On écoute un extrait de la musique pour les feux d'artifice royaux de Handel, La Réjouissance. La Réjouissance, extrait de la musique pour les feux d'artifice royaux de Georg Friedrich Handel, interprété ici par les solistes baroques anglais et John Elliott Gardiner à la direction. Il est 8h09. Bonjour Antoine Pecker.
Bonjour Saskia,
c'est l'heure
bonjour
de votre
tous.
Chronique Culture Écho. Ce vendredi, demain donc, s'ouvre la scène musicale, la nouvelle salle de concert de Lise Séguin à Boulogne-Billancourt. Vous revenez ce matin, Antoine, sur le modèle économique de cet équipement.
Un modèle économique, Saskia, qui tient en 3 lettres, PPP, pour partenariat public-privé. Du côté public, on trouve le Conseil départemental des Hauts-de-Seine. Et du côté privé, il y a plusieurs entreprises impliquées. Pour la construction, c'était le groupement Tempo, qui réunit Infravia, Bouygues et Sodexo. Et pour le fonctionnement maintenant, c'est la société STS, où l'on trouve TF1 et de nouveau Sodexo. Quand on parle avec Patrick Devedjian, qui est le président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine, le PPP a tout du montage idéal. Il a permis, selon lui, de tenir le coût et les délais avec pas un seul euro de dérapage, contrairement, précise-t-il, ambitieusement à la Philharmonie de Paris. Le coup de construction de la scène musicale, réalisé par les architectes Shigeru Ban et Jean de Gattin, s'élève au final à 170 millions d'euros, dont 120 millions apportés par le conseil départemental. Mais quand on commence à rentrer dans le fonctionnement de cet équipement, on découvre les complexités d'un tel montage. Il y a, rappelons-le, deux salles dans la scène musicale, la grande de 6000 places et la petite d'un peu plus de 1000 places. On aurait pu imaginer au départ que le privé s'occupe de la grande et le côté public de la petite. Pour une raison simple, un opérateur privé peut espérer marger avec une jauge importante et des concerts de musique actuelle, alors que l'économie du classique repose en France sur un système subventionné. Mais si ce scénario a un temps été envisagé, il n'a pas été retenu, et c'est donc là que ça se complique. STS va programmer au départ une centaine de dates dans la grande salle et une quarantaine dans l'auditorium, et le conseil départemental va lui gérer 40 dates dans l'auditorium. Il va donc falloir penser la complémentarité en termes de programmation. Du côté public, l'orchestre en résidence, c'est le bien nommé Insula Orchestra, l'orchestre sur instruments anciens de Laurence Equilbé. Le conseil départemental apporte 3 millions d'euros annuels à cet ensemble, un montant particulièrement élevé hein, si on compare aux autres ensembles indépendants. Il faut préciser que Laurence Equilbé va également inviter d'autres orchestres. Il y aura notamment l'orchestre de Cincinnati ou celui de la BBC Pays de Galles, une phalange qu'elle connaît bien pour l'avoir dirigée. À cela se rajoute côté public l'Académie de Philippe Jaroussky et la Maîtrise des Hauts-de-Seine. La programmation de STS, le groupement privé, est-elle entre les mains de Jean-Luc Choplin, l'ancien patron du Châtelet, qui promet, ce sont ses mots, une fête musicale permanente. Alors concrètement, cela donne quoi ? La grande salle accueille des artistes après leur date au Zénith, comme pour Bob Dylan, qui fait l'ouverture de la scène musicale demain après avoir chanté ce soir au Zénith. Il y aura aussi des noms comme Michel Sardou. Au programme aussi de la comédie musicale, cher au cœur de Jean-Luc Choplin, on le sait, du jazz, bref, un peu de tout. Et dans la petite salle, beaucoup de locations, c'est-à-dire des producteurs qui payent la salle, avec par exemple Carmen en juin par l'Orchestre Philharmonique International, une phalange totalement inconnue au bataillon, ou bien l'art de la direction d'orchestre avec le chef Georges Pélivanian. On voit bien là le calcul, hein. Le partenaire privé espère ainsi gagner de l'argent, mais le risque est que la scène musicale devienne ce que l'on appelle un garage. STS doit comprendre qu'il est impérativement nécessaire d'investir, comme dans toute logique entrepreneuriale, pour asseoir la notoriété de la marque. Le budget programmation de STS, qui n'est pas rendu public, ne semble visiblement pas à la hauteur du projet. Et le défi est bien d'attirer le public dans une salle qui reste encore éloignée du métro en attendant le Grand Paris Express. D'autant que l'ouverture le week-end du premier tour de l'élection présidentielle semble pour le moins hasardeuse en termes de communication et de visibilité, même si TF1, on l'a dit, est présent parmi les partenaires privés. Ce PPP est fait pour durer 30 ans. Mais d'ici là, il y aura aussi une étape importante, la fin de mandat en 2021 de Patrick Devedjian, qui pourrait bien rabattre certaines cartes, sans compter avant cela l'ouverture d'une autre salle dans l'ouest parisien, celle de la future salle de LVMH à côté de la Fondation Vuitton. Bref, l'aventure de la scène musicale ne fait que commencer.
Merci beaucoup Antoine Pecker. On réécoute cette chronique sur francemusique.fr et puis tout à l'heure, nous allons faire un tour avec Jean-Baptiste Urbain dans cette nouvelle salle de la scène musicale. Donc restez avec nous.
À tout de suite.
Saskia Deville, la matinale, France Musique. Thank you.
Quelques notes du scherzo, deuxième mouvement du deuxième section en sol majeur opus 36 de Johannes Brahms. Un extrait de ce nouveau disque de Sel, entre autres, qui est notre invité ce matin, Marie Chilem à l'alto. Ici, vous êtes bien entouré, on peut le dire, hein. Gauthier Capuçon, Renaud Capuçon, Christophe Conce et Clemens Hagen et Gérard Cosset aussi à l'alto. Un disque enregistré l'an dernier au Festival de Pâques d'Aix-en-Provence. On va en parler, Marie Chilem, vous jouez de l'alto, vous avez, je disais, choisi cet instrument à l'âge de 3 ans. C'est tôt.
C'est très tôt.
Alors même, peut-être, si vous ne vous rappelez pas tous les détails, il y avait un contexte, je ne sais pas, on vous l'a mis en main, vous l'avez entendu et vous l'avez choisi. Comment ça s'est passé?
Je crois que déjà, ayant des parents musiciens, on est un peu baigné dedans, hein, déjà dans le ventre de ma maman, je pense que j'entendais beaucoup de musique. Et puis mon frère Guillaume, qui a un an de plus que moi seulement, on est très rapprochés, a choisi le violon. Et donc pour pas faire le même instrument, ma maman m'a orientée vers l'alto et je l'en remercie.
Les parcours un petit peu plus habituels, on va dire, c'est de commencer avec le violon et puis de s'orienter vers l'alto. Ça n'a pas été votre cas, donc le violon finalement n'est pas un passage obligé pour mener à l'alto.
Ouais, je crois qu'il y a maintenant de plus en plus d'altistes qui ont vraiment commencé par l'alto et je trouve qu'on est bien comme ça, n'ayant pas touché le violon. Je crois que voilà, j'apprécie d'autant plus.
Ça ne vous a jamais démangé d'échanger votre instrument avec votre frère ou de...
Pour plaisanter, je lui montre ma virtuosité sur son violon, mais non, c'est vraiment
et
pour
ça
plaisanter.
Et ça ressemble à quoi?
Oh là là, ça ressemble à la dernière gamme du concerto de Sibelius, par exemple. Non, non.
Et lui à l'alto, ça arrive parfois?
Et lui à l'alto, ben oui, parce que il a joué plusieurs fois le Pierrot Lunaire de Schoenberg, et du coup, il était obligé de jouer de l'alto. Mais je pense qu'il...
Vous l'avez conseillé, Marie Chilem?
Je l'ai conseillé pour le son, pour la patte de son peut-être, mais il est très fort, il s'adapte très bien.
Là, qu'est-ce qui fait la particularité peut-être de jouer avec son frère, Marie Chilem? Est-ce qu'il y a de la concurrence? Est-ce que ça rend la relation plus franche?
Ah, je crois que concurrence, pas du tout. La relation plus franche, oui, c'est sûr que quand on travaille avec son frère, on n'y va pas par quatre chemins. On dit les choses, voilà, très très clairement, très très directement, et on perd pas de temps. On en parlait là justement avec Adrien Lamarca, qui était là aussi avec son frère Christian Pierre
au concert il y a deux jours au festival.
Il y a deux jours, voilà,
de Aix-en-Provence.
Ouais, et puis on disait qu'il y a une espèce de, ben, on se sent comme à la maison en fait. On réfléchit pas, on joue comme on respire.
Et ce feeling, vous l'avez, j'imagine, aussi avec d'autres musiciens. Vous jouez sur votre nouveau disque aux côtés de Gérard Cossé, grand altiste qu'on connaît. Quels sont peut-être les autres grands noms, les autres grands altistes qui vous inspirent ou qui vous ont donné le goût à ce répertoire-là, à cet instrument-là, Marie-Chilène?
Évidemment, Tabba Timmerman, pour moi, reste vraiment une déesse de cet instrument, et puis pas seulement, c'est une musicienne incroyable. On oublie l'alto, le violon, le piano, c'est juste de la musique à l'état pur. Et donc évidemment Gérard Cossé, Miguel da Silva, Lise Berto, avec qui je joue très souvent, que j'adore, Léa Nino, enfin il y a évidemment, c'est les altistes maintenant sont très inspirants.
Qu'est-ce qui vous nourrit? Qu'est-ce qui vous inspire, vous, au-delà de ces grands noms, de ces grands musiciens?
Qu'est-ce qui m'inspire? Je crois que c'est en fait les rencontres qu'on fait, les gens, dans les festivals, l'amour des gens pour la musique, pour la dévotion à ça, à faire que les choses se passent bien. À chaque fois qu'on passe par un endroit où on peut faire plaisir aux gens, tout ça, juste ce qui nous renvoie après un concert, ça me fait beaucoup de bien, et ça m'inspire pour la suite.
8h23, on va écouter votre premier choix musical, Marie Chilem, le 13e quatuor à cordes de Beethoven. En voici la cavatine.
Thank you.
extrait de la Cavatine, cinquième mouvement du 13e quatuor à cordes de Beethoven. Votre choix ce matin, Marie Chilliem, c'est magnifique ce mouvement. Pourquoi l'avoir choisi celui-là ?
Oh là là, parce que je pense qu'il n'y a pas de... ça met tout le monde d'accord, il n'y a pas de mots
y a
en
pas
fait,
de débat.
Je ne sais pas quoi dire, oui.
L'émotion peut-être qui se dégage de ce mouvement-là ?
Oui, je pense qu'on passe... Dans l'opus 30 de Beethoven, dans le quatuor opus 130, on passe par tous les états, je crois, de la vie, tous les sentiments. Chaque mouvement nous plonge dans un sentiment vraiment particulier. Et la cavatine a une profondeur extrême pour moi.
Et puis une sorte de côté dramatique, très intense. Et c'est ce quatuor, je pense, qui a donné le nom. Votre quatuor à vous, Marie Chilliem, que vous avez fondé avec votre frère Guillaume. Il y a aussi, et vous allez me corriger si je ne prononce pas bien les noms, Mathieu Hanschuwerker.
Hanschuwerker.
Hanschuwerker, ouais. J'étais pas loin. Et Bruno Delpeller.
Delpeller, oui.
Delpeller.
Et Bruno Delpeller, qui finalement ne fait plus partie maintenant du quatuor cavatine, qui est remplacé par Victor Julien Ferrière.
Mais qu'on depuis avait reçu ici. Ouais. Depuis quand ?
Depuis, peut-être 6 mois.
Ah, voilà, c'est bien, on apprend des choses dans cette matinale, Marie Chilliem. Quelle vision avez-vous du quatuor, justement ? Comment ça se construit ? Comment est-ce que vous construisez les choses ensemble ?
Alors, pour moi, le travail... Le travail de détail, d'exigence qu'on partage fait un peu tout dans le quatuor.
Est-ce qu'il y a peut-être des compositeurs qui vous intéressent plus que d'autres ? Est-ce que vous êtes fixé, je ne sais pas moi, un répertoire particulier ou une période de l'histoire de la musique à travailler plus intensément ?
Pour commencer, je pense que Haydn a été très très présent pour nous. Pour commencer un travail de quatuor, c'est vraiment très sain, je trouve. Les quatuors de Haydn. Après, nous, on aime beaucoup les quatuors de Mozart. On a beaucoup joué le 421 de Mozart. Et évidemment, de passer par les derniers quatuors de Beethoven, c'est
voilà. Un petit plaisir.
C'est un plaisir, ouais.
On va vous écouter quelques instants, Marie Chilliem, avec le quatuor cavatine, ancienne version, ancien casting, si je puis dire. C'était dans Plaisir du quatuor, c'était en juin 2016. Voici un extrait du 23e quatuor à cordes de Mozart. Aller trop vite, on veut découvrir ce nouveau disque, Marie Chilliem, on va revenir, c'était Brahms qu'on écoutait, on l'écoutera, c'est promis tout à l'heure, mais j'aimerais quand même qu'on écoute Mozart, moi, avec ce quatuor cavatine. Thank you. Quatuor Cavatine pour ce deuxième mouvement du 23e Quatuor de Mozart. C'était dans l'émission Plaisir de Quatuor, ici sur France Musique, en juin dernier, un concert enregistré au studio 106. Marie Chilem, ça ne vous a peut-être pas échappé. Paris s'est doté récemment de nouvelles salles de concert, la Philharmonie, le nouvel auditorium ici à la Maison de la Radio. Eh bien, en voilà une troisième qui arrive. Elle sera officiellement inaugurée après-demain. La scène musicale de Lise Seguin à Boulogne-Billancourt, à l'ouest de la capitale. Matinale spéciale d'ailleurs ce samedi, ça sera en compagnie de Clément Rochefort. Et puis concert d'inauguration en direct samedi soir à 20h avec... À la présentation d'Ensemble de Rico et vous-même, Jean-Baptiste Urbain, bonjour.
Bonjour Saskia, bonjour Marie. Bonjour.
Plusieurs artistes sont particulièrement associés à cette nouvelle scène musicale, à commencer par la chef Laurence Equilbé et son Insula Orchestra qui donneront justement ce concert d'inauguration.
Insula Orchestra, orchestre de Lille, en latin, de Lille,
de
Seguin.
Lille, oui.
Eh oui, car la formation symphonique créée en 2012 par Laurence Equilbé, également fondatrice du célèbre Chœur Accentus, cette formation symphonique donc dédiée au répertoire classique et romantique, est en résidence à la scène musicale. Alors Laurence Equilbé et ses équipes ont investi des bureaux flambants neufs il y a quelques semaines avec vue sur les coteaux de Meudon de l'autre côté de la Seine, en résidence donc avec en écrin ce superbe auditorium tout en bois blond, avec un plafond en nid d'abeilles. Il peut accueillir 1150 spectateurs, un lieu épuré, zen, que Laurence Equilbé et son orchestre vont investir tout au long des prochaines saisons.
Le projet que développe Insula Orchestra ici, il est un petit peu d'un genre nouveau, avec beaucoup de propositions, notamment pour les jeunes gens. Il y aura beaucoup de créations scéniques, grâce à cette fosse dans l'auditorium. Il y aura des concerts flash, enfin, c'est un projet un peu original. Et aussi tout un projet, effectivement, d'éducation culturelle et pédagogique, qui sera très important. Et notamment la création, d'ailleurs, de ce collectif de jeunes, qui est déjà créé, qui comporte déjà pratiquement 300 membres de Insulab, pour les 17-26 ans, à qui on va proposer des before, after et aussi de prendre les rênes de la programmation et de la production pour un week-end l'année prochaine. Il y a aussi un festival qui s'appelle Mozart Maximum qui se voudra très ouvert et très grand public, j'espère, à la fin du mois de juin, au beau jour, parce que c'est, je crois que cette île, c'est aussi un lieu de promenade, d'excursion. Et si on peut trouver un peu de musique, un peu de beauté sur le chemin, c'est formidable.
Et Laurence Equilbé avec son Insula Orchestra ne seront pas seuls en résidence à la scène musicale de Boulogne-Billancourt. En cours, Jean-Baptiste, il y aura aussi un ensemble du département, la maîtrise des Hauts-de-Seine.
Ben oui, avec la maîtrise de Radio France, la maîtrise des Hauts-de-Seine, c'est l'autre cœur d'excellence en Ile-de-France, cœur d'enfants. 500 chanteurs dès 5 ans avec une spécialité, le lyrique. C'est notamment le cœur d'enfants officiel de l'Opéra National de Paris. Il participe aussi à des productions à l'Opéra Comique ou encore au Théâtre des Champs-Élysées. Alors avant, il travaillait à Suresnes, c'est un petit peu plus loin dans les Hauts-de-Seine. Et depuis 2 mois, la scène musicale est leur nouvelle maison, une maison où Gaël Darchène, le directeur musical de la maîtrise, se réjouit lui aussi de l'existence de cet auditorium d'exception.
Il y a, hormis ce qui peut exister ailleurs, c'est-à-dire des salles de répétition avec des gradins modulables et la possibilité d'avoir plusieurs salles de technique vocale pour travailler et des espaces pour la chorégraphie, une grande salle qui est l'égale d'un théâtre avec une fosse d'orchestre, avec la possibilité d'accrocher des corps au cintre, avec toute la lumière nécessaire. Et donc, une salle unique en son genre, puisqu'elle permet aux enfants de répéter dans les mêmes conditions que celles qu'ils rencontrent sur les plus grandes scènes nationales. Et n'en doutons pas, on aura la possibilité de rencontrer énormément d'ensembles qui viendront se produire ici.
Voilà, j'ajoute que, comme c'est Jean-Luc Choplin, l'homme qui a fait entrer la comédie musicale au Théâtre du Châtelet, qui est le directeur artistique de cette nouvelle scène musicale, et bien dès septembre, la maîtrise des Hauts-de-Seine va ouvrir un module pour former des enfants spécifiquement à la comédie musicale.
De la formation avec la maîtrise des Hauts-de-Seine, mais il va aussi y en avoir, Jean-Baptiste, à travers une académie dirigée par un certain Philippe Jarouski.
Absolument, le contre-ténor lance ce projet pédagogique autour de 2 classes d'âge. Alors vous avez les jeunes apprentis de 7 à 12 ans, là il s'agit d'une initiation avec prêt d'instrument. Les inscriptions sont d'ailleurs ouvertes jusqu'à la fin mai. Et puis un perfectionnement pour les 18-25 ans. Là, il s'agit de pré-professionnels avec à leur côté des musiciens enseignants comme la violoniste Geneviève Laurenceau, le violoncelliste Christian-Pierre Lamarca et le pianiste David Cadouche. Il s'agira en particulier de sessions de masterclass. Et c'est donc Philippe Jarouski qui pilote le tout, une académie à laquelle il pensait en fait depuis longtemps déjà, il nous l'a dit, de son téléphone canadien car il est actuellement en tournée.
C'était un projet que j'avais en tête depuis quelques années. ça vient du fait probablement de mes origines. Moi, je ne viens pas d'une famille de musiciens. J'ai vécu en banlieue parisienne, à Sartrouville, pendant plus de 20 ans. Et c'est un professeur de collège qui a détecté le fait que j'avais un goût et probablement un talent pour la musique, et qui a conseillé à mes parents de me faire entrer dans un conservatoire. Et c'est probablement peut-être après 20 ans de concerts et que j'ai peut-être envie de redonner cette chance qui m'a été donnée au départ, peut-être à d'autres enfants, tout simplement, qui n'auraient pas un accès facile à la musique classique. Force est de constater quand même que la mixité sociale n'est pas le fort, malheureusement, de la musique classique. Et le départ de ce projet, il part de ce constat-là, tout simplement.
Philippe Jarouski et ses amis qui seront en concert à la scène musicale le 23 mai pour le lancement de cette académie musicale. Il y aura donc aussi ce festival Mozart Maximum, première édition. Peut-être que le Quatuor Cavatine sera là pour la deuxième, une prochaine édition.
Mais oui.
Et puis en attendant, Bob Dylan, lui, inaugure demain l'autre salle de la scène musicale, parce qu'il y a deux salles, la salle de musique amplifiée. Quant au concert d'inauguration officiel avec Insula Orchestra et Laurence Equilbet, c'est donc après-demain, samedi à 20h, en direct sur France Musique et en vidéo sur francemusique.fr.
Mais avec vous aussi, Jean-Baptiste Urbain, il me semble. Non, c'est vrai, on ne pourra pas vous voir. Oh, c'est dommage, on va faire une petite photo alors pour se remémorer ça. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Urbain. Marie Chilem, vous avez vous-même participé, je pense notamment à l'Académie de CJ Ozawa en Suisse. Ce genre d'initiative, c'est important, c'est indispensable pour un jeune musicien de participer à ce genre d'académie-là.
Ah oui, c'est une chance de pouvoir avoir des conditions excellentes comme ça, des professeurs incroyables et de surtout de se retrouver entre jeunes et de partager, de savoir où on en est.
Et est-ce que c'est là que vous avez rencontré les membres du Quatuor Cavatine, Marie Chilem, je me demandais. Je sais que vous avez fait l'académie avec votre frère Guillaume.
Voilà. On s'était rencontrés bien avant avec mon frère.
Oui, il y a de fortes chances, tout à fait.
Mais les autres, non, en fait, au Conservatoire supérieur de Paris, on s'est rencontrés avec Mathieu. Et puis Bruno était en échange à Berlin. Donc on l'a rencontré à Berlin.
Quand vous étudiez auprès de Tabea Zimmermann.
Oui, aussi. Voilà.
Eh bien, autre acoustique que celle de cette scène musicale, on va réécouter un extrait de votre nouveau disque enregistré au Conservatoire d'Arius Milhaud dans le cadre du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence. C'était l'an dernier, voici le troisième mouvement scherzo du premier sextuor de Brahms. Le scherzo, troisième mouvement du premier sextuor de Johannes Brahms, joué par un grand et beau casting, Marie-Chile Mvou, à l'alto aux côtés de Gérard Cossé, Renaud Capuçon, Christophe Ponce. Voilà, ça y est. Hervé Niquet est rentré dans le studio, je ne vais pas savoir me concentrer. Hervé Niquet, mollo, c'est vous, c'est tout à l'heure. Gérard Cossé, je disais, Christophe Ponce, Marie-Chile Mvou, Gauthier Capuçon, Clemens Hagen également. Dans ce sextuor, enregistré dans le cadre du Festival de Pâques l'été dernier, à Pâques passé, pardon. Vous partagez finalement tous les six le même amour de la musique de chambre, Marie Chilem.
Ah oui, je crois, je vais essayer de me concentrer aussi. Mais
c'est difficile, hein. allez-y, pardon.
Oui, alors j'étais bien entourée, j'avais la chance d'être là.
Comment est-ce que vous choisissez finalement vos partenaires de musique de chambre, Marie Chilem?
On l'a jamais
choisi. Casting alors, est plutôt agréable, mais
peut-être que c'est eux qui me choisissent. non, je pense qu'il y a évidemment un aspect humain auquel on fait très attention. Pour travailler, c'est essentiel d'avoir des gens avec qui on se sent bien, pour avoir les meilleures conditions, voilà, pour servir au mieux les compositeurs qu'on interprète. Après, je crois que j'ai vraiment de la chance, moi, d'être aux côtés de ces grandes personnalités de la musique, voilà, et je remercie Renaud Capuçon qui a l'art de rassembler des personnes autour de lui.
Comment est-ce que vous l'avez rencontré d'ailleurs?
Comment je l'ai rencontré la première fois? Et ben c'était pour ce concert Frères et Sœurs à Aix il y a 2 ans. On avait déjà fait une édition et puis mon frère Guillaume qui joue avec Renaud voilà qui me l'a présenté.
Alors au-delà du quatuor cavatine, ici on est en formule sextuor, qu'est-ce qui fait finalement l'exercice différent, Marie-Philène?
L'exercice différent, je pense que pour l'oreille, l'exercice peut-être est
difficile, aisé.
Difficile, non, peut-être plus intense. Il y a les voix sont plus.
Et puis vous êtes à deux altos.
Voilà, en fait, les voix sont partagées d'une manière très très bien écrite, surtout dans chez Brahms. Là, c'est un régal. Toutes les voix sont là, se nourrissent entre elles. Voilà.
Est-ce que finalement enregistrer ces deux sextuors de Brahms, c'était une envie qui remontait à longtemps, Marie Chilem, ou le projet est arrivé comme ça?
Oui, alors j'ai déjà enregistré un sextuor de Brahms aux côtés d'Augustin Dumay, Miguel da Silva, Henri de Marquette, Aurélien Pascal.
C'était voilà, en quelle année ça?
Ça c'était en janvier de l'année d'avant.
Ah donc, il n'y a pas si longtemps que ça.
Pas si longtemps que ça.
Une œuvre que vous appréciez tout particulièrement.
Voilà, je crois
Marie-Chile.
Que Brahms m'accompagne. Et puis il y a d'autres projets qui arrivent justement aux côtés de Pierre Fouchonneret, entre autres.
Quel projet?
Brahms. Je ne sais pas si je vais dévoiler les secrets, mais voilà, un projet Brahms, peut-être une intégrale de la musique de chambre. De Brahms.
Peut-être, mais on s'y tiendra informé. Je vous propose d'écouter un extrait à nouveau de ce disque, premier mouvement du deuxième sextuor, cette fois-ci, de Johannes Brahms.
Thank you.
Magnifique premier mouvement de ce deuxième sextuor de Johannes Brahms, un extrait de votre nouveau disque, Marie Chilem. Vous êtes accompagnée ici de Renaud Capuçon, Christophe Conks, Gérard Cosset, Gauthier Capuçon et Clemens Hagen au violoncelle.
Tout à fait.
Très beau disque qui vient de sortir chez Erato. Restez avec nous, Marie Chilem, c'est l'heure de se voir. Et oui, c'est à vous, Hervé Niquet, il est 8h53. Bonjour.
Bonjour Madame Saskia. Alors je sais qu'en Belgique, un train qui arrive à l'heure est un train qui est en avance.
Je confirme.
Mais maintenant que la SNCF se prend pour une compagnie aérienne, leurs trains partent 10 minutes plus tôt, sans crier gare, et c'est le comble pour un train, et sans prévenir personne. Et c'est ainsi qu'il y a 15 jours, j'ai perdu la moitié de l'orchestre et du chœur du concert spirituel à la gare de Lyon. Le train a démarré sous les yeux ébahis d'une vingtaine de musiciens s'avançant innocemment et calmement vers le quai, avec violoncelle, contrebasse, théorbe et autres instruments. Autant vous dire que la panique a saisi les embarqués, comme ceux restés à quai. Quant à la tête de la chargée de production qui allait devoir gérer le merdier, ce n'était pas beau à voir. La seule explication du chef de bord, aussi frais qu'une tranche de jambon phosphaté en plein soleil, fut « Ah bon ? On vous a pas prévenu ?» Il faudrait dire tout de même à Monsieur Pépi, patron de la SNCF, qu'il apprenne à ses contrôleurs à se raser, se mettre du déodorant, sucer des pastilles au menthol triple dose et faire partir ses trains à l'heure. Car on ne peut pas dire qu'ils aient l'allure et l'amabilité des hôtesses d'Air France, leurs contrôleurs. Ça y est, Madame Saskia, je suis vieux et périmé. Ça vous étonne, hein ? Je vais avoir 60 ans, démodé que je suis, avec la date limite de péremption largement dépassée. J'aurai ma carte senior en fin d'année, vous rendez compte ? Pétard ! Ça devient une émission de vieux, la matinale ! Mais du coup, le concert spirituel fête aussi ses 30 ans. Ahurissant, non ? On a beau avoir fait le tour du monde plusieurs fois, enregistré une centaine de disques, joué devant des rois, des reines et des princesses dans des salles de concert prestigieuses, il me restera éternellement le souvenir ému de la première répétition de l'ensemble. Clair et précis, comme si c'était hier. Il faut vous dire que mes jumelles étaient nées quelques jours auparavant à la clinique de Port-Royal. Et après une petite période d'observation, elles sont arrivées avec leur mère en pleine première répétition qui se déroulait à la maison comme deux petites princesses de 5 jours. Inutile de vous dire que les « Oh, qu'elles sont mignonnes !»« Oh, mais c'est des anges !»« Ouh, les beautés !» ont fini de fusiller ce que je pensais être une répétition sérieuse. Avouons tout de même que j'étais fier comme le tenancier du bar-tabac en face de la maison de la radio. Ah tiens, encore la dernière fois, Madame Saskia, vous vous demandiez « Oh, mais où Maître Niquet a-t-il appris ce sens de la mélodie, ce rythme chevillé au corps
mais
et cette vocalité si sensuelle, n'est-ce pas, vous souvenez ? Mais où, que donc qu'elle se dit, Madame Saskia ? Ben, au carnaval de Dunkerque, bien sûr. Mère et puis grand-mère à son Dunkerque, Mme Saskia. Et je peux vous dire que passer 3 jours par là-haut, par an, depuis l'âge de 8 ans, à défiler dans la ville, déguisé en monstre improbable, avec un minuscule parapluie dont le manche fait au moins 2,50 m de haut, et en hurlant sans discontinuer, mets ton petit cul sur glace, mets ton petit cul sur glace, ton petit cul tout du pop, 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 mets ton petit cul sur glace, mets ton petit cul sur le gaz, ton petit cul tout une... Et ça recommence. Mais pendant 3 jours, Madame Saskia, eh ben ça vous enseigne des trucs qu'on n'apprend pas au conservatoire. Mi, le rythme et pige, volupté sensuelle, je l'ai appris à Dunkerque, Madame Saskia.
Merci beaucoup, Hervé Niquet. Et moi qui me faisais justement la réflexion qu'on n'avait pas reçu de chanteur cette semaine, mais nous voilà.
Eh ben voilà, vous êtes fournis.
Mais voilà, c'est fait. Merci. On vous réécoute sur francemusique.fr. Merci aussi à vous, Marie Chilem. Je rappelle la sortie de ce disque Brahms, les deux sextuors de Brahms sous le label Erato. Vous serez prochainement en concert. Alors, ce ne sera pas en France, ce sera à Venise, début mai, du 11 au 13 mai. Vous y enregistrerez d'ailleurs un disque au Palais de Cité aux Bruzzani. On peut déjà savoir le programme.
Ah oui, alors ce sera avec Igiardini, un ensemble de musiciens que j'affectionne particulièrement, mon frère évidemment, et puis donc ça sera Fernand de la Tombelle, quatuor de piano.
Dont on parle tellement ces temps-ci. Ce et puis un autre disque est en préparation, toujours avec votre frère, Guillaume Chilem. Voilà. Schubert sera à l'honneur cette fois-ci.
C'est ça, la truite de Schubert et la fantaisie de Schubert, qui va sortir chez Aparté.
On a déjà une date de sortie, pas encore.
Pas encore, c'est...
On s'y tiendra informé, bien évidemment. Et puis le 6 juin prochain, au cas où certains de nos auditeurs sont de passage dans la région, vous serez au festival Les Athénéennes à Genève, en Suisse, avec votre quatuor Cavatine, Edgar Moreau. Merci beaucoup, Marie-Philemme, d'être venue nous voir ce matin. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt.
Au revoir.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.